Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David, on te retrouve tout à l'heure pour l'animation de l'après-midi. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Aujourd'hui, nous recevons Cécile Berthet, directrice du village Landais Alzheimer, Henri Emmanueli et Fabien Pradal, psychomotricien au village. Et on a aussi aux commandes avec nous, qui nous accompagne, on a Marc aussi, notre stagiaire, qui participe aujourd'hui à cette émission. Bonjour tous les trois, comment allez-vous ?
Bonjour Jean-Philippe, ça va très bien.
Bonjour Jean-Philippe, ça va, merci.
Bonjour.
Voilà, très bien. Voilà, ils sont sages, ils sont gentils. Voilà. Bon, voilà, moi je suis content de vous recevoir parce que c'est vrai que ce fameux village landais, ben, on en entend souvent parler parmi les diverses associations qu'on reçoit ici, qu'elles soient sportives ou culturelles. Ça semblait être une évidence de vous avoir un jour directement à ce micro parce que c'est même une fierté locale. Voilà, donc je suis très content de vous recevoir. On va passer une petite heure justement pour découvrir ce que vous êtes exactement, comment vous fonctionnez. Et un petit peu d'actualité aussi, parce que c'est un vrai village, ça vous allez le comprendre à l'issue de cette émission. On va d'abord écouter le flash info national et international, et on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. Et c'est parti, nous voilà donc avec nos invités, hein, Cécile Berthet et Fabien Pradal, donc il vient nous parler du village landais Alzheimer, Henri Emmanueli, il faut lui donner son nom propre maintenant. La tradition, c'est en débutant cette émission, on demande un petit peu aux gens leur trajectoire personnelle, un petit parcours de vie qui fait qu'ils sont aujourd'hui à ce micro. Et je sais que Cécile piaffe d'impatience de s'exercer à cette chose-là. Elle va nous parler un petit peu d'elle, si vous voulez bien.
Déjà, merci de nous recevoir. On est assez honorés. D'être enfin à la radio locale, parce que je pense que c'est important justement pour vraiment s'inscrire sur le territoire. Donc, comme je suis obligée de parler un peu de moi, oui. Je vais le faire. Donc, mon parcours très rapidement, donc je suis à la direction du village depuis février 2023, donc un peu plus de 3 ans. Précédemment, j'exerçais des fonctions sur le secteur médico-social et gériatrique à l'hôpital de Mont-de-Marsan. Et pour arriver sur ce poste, j'ai passé un concours de directrice d'établissement social, sanitaire et médico-social à l'école des hautes études en santé publique à Rennes.
D'accord.
Et donc c'est mon deuxième poste en tant que directrice d'établissement médico-social ici. Et c'est une chance.
Alors comme type de diplôme, vous avez quoi au niveau d'études
pour venir... Alors initialement, j'ai des études en droit social et gestion des ressources humaines. Et ensuite, j'ai passé un concours et c'est 2 ans à l'école, à l'EHESP pour être diplômée derrière.
Alors ça, c'est le genre de poste, j'allais dire un petit peu comme à l'éducation nationale, les gens ils se battent pour revenir dans le sud, etc., avoir un poste intéressant dans le coin. Est-ce que pour vous aussi, c'est quelque chose d'intéressant? Je ne parle pas juste de la situation, mais c'est un poste vraiment particulier, dans un endroit vraiment unique. Je pense que ça devait être... Est-ce qu'il y avait de la demande? Vous avez dû vous battre pour l'avoir, ce poste?
C'est ça, on s'est battu, mais quand je mords au mollet, je lâche pas. Blague à part, effectivement, c'est plutôt le concours de circonstances de l'opportunité au moment où je cherchais quelque chose d'autre. J'étais déjà bien intégrée sur le territoire, les structures médico-sociales dans les langues ont cette force, je trouve, de travailler bien en réseau, d'entraide, donc ça c'est plutôt quelque chose, donc quand on cherche des postes et l'opportunité s'est présentée, j'ai tout donné et puis le résultat était là.
Eh bien, bienvenue, très bien.
Merci.
Bon, on va se tourner vers Fabien, parler un petit peu de lui. Bon, il est déjà venu il y a quelque temps, on avait parlé de sortie avec les eaux thermales, hein, il me semble.
Voilà. Tout à fait. Donc, toujours Fabien, du coup, et toujours originaire de Marseille et dans les Landes depuis 8 ans maintenant. Dans mon parcours en tant que psychomotricien, j'ai pu d'abord travailler sur Marseille dans différents établissements qui accueillent des personnes atteinte de différents handicaps, et puis j'ai découvert la maladie d'Alzheimer et son accompagnement à Mont-de-Marsan quand j'ai quitté ma région natale pour venir dans les Landes. J'ai pu intervenir au domicile en accueil de jour, et maintenant ça fait 6 ans que je travaille et que j'évolue au sein du village landais.
Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Bon, Marc, on le connaît déjà, mais bon...
J'ai déjà eu l'occasion de me présenter, Jean-Philippe.
Voilà. Parlons donc de ce fameux village. Déjà le mot village lui-même, effectivement, c'est parce que c'est un endroit où vont des gens qui ont des problèmes de maladie d'Alzheimer ou affiliés qui ressemblent un petit peu, je pense que ce soit des sortes de les dégénérescences, je ne sais pas quels sont les termes médicaux à utiliser exactement, mais c'est vraiment un village en fait. C'est ça en fait qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que c'est pas un EHPAD, c'est pas ça ressemble pas à un hôpital, ça ressemble vraiment à un village avec les choses qu'on trouve dans un village, les entrées, les sorties, etc. C'est ça qui est vraiment fondamentalement différent.
Oui, alors enfin, village, c'est un concept qui existe depuis une vingtaine d'années dans le monde. Mmh. Le premier était au Jeuvec.
Voilà.
Après, il n'y a pas une définition proprement parlée de ce qu'est un village, mmh, parce que chaque culture est différente, donc chaque village est différente.
Oui.
Après, c'est vrai que celui donc de Dax, mmh, a vraiment dans toute sa dimension architecturale, environnementale, bah, les aspects des villages classiques des Landes avec sa bastide,
voilà,
et tous ces services, infrastructures en son cœur qui permettent justement de vivre vraiment dans le village aussi bien que les personnes de l'extérieur qui rentrent, les villageois qui sortent.
C'est ça.
Et ça marche bien comme ça.
Mmh. Oui, alors donc on va être obligé de parler de monsieur Emmanueli, bien sûr, parce que maintenant il a depuis quelques temps, pas depuis le début, mais depuis quelques temps, je crois en 2017 ou je ne sais plus la date exacte, on lui a donné ce nom à ce village parce que Monsieur Henri Emmanueli, qui est quand même qui est une personne, encore une fois, c'est un peu comme vous, je dirais, à recevoir plein d'invités. C'est un nom qui revient forcément. Hein, il a vraiment marqué. On parle souvent de tonton, hein, notre cher président, mais Mitterrand. Mais c'est vrai que Monsieur Emmanueli a vraiment marqué les Landes, hein, dont il est. Ben voilà, il était un fort représentant avec des valeurs d'humanisme importantes qu'il a. Il a mis en œuvre, c'était pas que du blabla. Voilà, des fois, on peut reprocher certaines choses à des hommes politiques, c'est normal. Mais enfin, en tout cas, je crois que tous les Landais gardent un petit peu dans leur cœur Monsieur Emmanueli. Et donc, c'est lui qui a été au départ de cette idée. Il s'est inspiré donc de cet exemplaire qui existait déjà aux Pays-Bas, je crois. Et donc, alors, on va parler un petit peu de l'historique, hein, de cette ce village landais, ça a démarré donc en 2013, je crois, l'idée.
Oui, et je pense qu'en fait, l'histoire du village, hein, de Henri Emmanueli avec le village, résume bien, je trouve, le personnage et la volonté politique et le fait que ça se concrétise derrière. Donc la légende qui n'en est pas qu'une, parce que c'est vraiment ce qui s'est réellement passé, en novembre 2013, dans le journal Le Monde, en fait, il y avait un article du premier village, donc à Jeuvec, aux Pays-Bas. Et en gros, il aurait décrété qu'il voulait ça pour les Landais. Et donc avec, je dirais, l'alignement des planètes politiques, hein, qui fait que derrière tout s'est enchaîné. Mais pose de la première pierre, je crois que c'était 2017, ouverture 2020. Alors, plus ou moins dans cette toute dimension, voilà, notamment avec l'ouverture, avec le Covid, était assez complexe. Mais je veux dire que d'un point de vue entre l'idée en novembre 2013 et une première pierre en 2017, vu l'ampleur du projet, je pense que ça résume bien Monsieur Henri Emmanueli dans toute la dimension de ce qu'il souhaitait pour les Landais et ce qu'il arrivait à mettre en œuvre, surtout concrètement.
Oui, c'est, alors il faut vous dire que c'est une chose qui est vraiment unique sur le territoire français, en tout cas vraiment. C'est sa même, comment dire, vocation d'expérimentation, hein, parce que c'est quand même le premier qui fait. Donc il y a une veille qui se fait par vous-même, et puis de l'extérieur, on se dit voilà, qu'est-ce que ça va donner, comment ça fonctionne, etc. La création elle-même, elle a mis en œuvre énormément de compétences et d'entreprises et d'institutions pour arriver à. C'était vraiment pensé, réfléchi, ça a quelque chose vraiment qui a fédéré beaucoup de ressources, je ne parle pas que d'argent, hein. Je parle de cerveau et de compétences, hein. Donc notamment en architecture, bon, Marc, c'est un petit peu son fonds de commerce, lui.
Et oui, là, je vais prendre ma casquette, entre guillemets, d'ancien professionnel de l'aménagement du territoire. Je connais toute la complexité de la maîtrise d'ouvrage et de monter des projets d'aménagement. Et j'étais curieux de savoir comment tout a été mis en musique, quoi, les acteurs et toutes les compétences qui ont été mises autour de la table. Je crois que ça a été au moins 4 ans de réflexion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu qu'un dessin qui est sorti par la plume d'un architecte. Ça a été vraiment une réflexion co-construite avec énormément d'acteurs. Est-ce que en quoi ces choses-là en fait ont permis la réussite de ce beau projet d'un point de vue architectural? Et puis est-ce que vous pouvez aussi décrire, je dirais, l'urbanisme un petit peu qui a été mis en place là-bas.
Je pense que ce qui est à noter, ce qui est important dans les personnes qui ont travaillé sur la conception du projet, c'est qu'on avait des usagers, dont France Alzheimer, France Parkinson, et je pense que ça n'a pas de prix pour vraiment avoir, construire avec les personnes qui en ont l'usage, parce que derrière, le résultat est plutôt ultra positif au niveau de l'architecture. sur le village Henri Emmanueli. Donc, en gros, pour résumer l'organisation, l'entrée de village se fait sur une bastide qui accueille tout ce qui est commerce, service. Alors, commerce pour le village, hein, y a pas d'échange d'argent, hormis pour la brasserie, pour les personnes extérieures. Mais on a un centre de santé, un salon de coiffure, une épicerie. On a aussi l'accès à la médiathèque et à l'auditorium qui se fait autour de cette bastide, donc dans l'architecture classique locale.
Bah oui.
Et ensuite, ça dessert quatre quartiers.
Okay.
Ces quatre quartiers sont composés de quatre maisons. Les maisons, il y a deux maisons qui accueillent sept villageois, deux maisons qui accueillent huit villageois, qui fait que chaque quartier accueille 30 villageois pour un total de 120. Petite spécificité sur un quartier où on a une maison qui fait de l'accueil de jour et une maison qui fait de l'hébergement temporaire. Des maisons 100% de plein pied, dans un parc arboré de 5 hectares.
5 hectares, ouais, d'accord.
Où on a aussi la présence de trois petites mares. Qui fait que la nature est omniprésente. On a aussi une ferme, un potager. Au sein de la ferme, on a trois ânes. On a quatre ou cinq chats. Je regarde notre psychomotricien qui aussi est référent animaux. Mais il y a des nouveaux chats qui arrivent.
Référent chat aussi. Ah ben ça, on est pas mal dans son CV.
Référent chien. Parce qu'il est formé à la médiation animale, il vient travailler avec son chien.
Ah oui.
Enfin, avec sa chienne, Sam.
Quatre chats sur le village en plus. Bon, très bien, merci pour la description.
Ça peut vite tripler au printemps quand même.
Non, fais attention.
Oui, voilà, oui, parce que les chats, hein, c'est sympa, mais. C'est déjà le moment de faire une première pause. Hein. On va écouter un petit peu de musique, on se retrouve ensuite. Voilà, de retour pour la deuxième partie de cette émission. Alors, Marc s'est interrogé un petit peu sur la problématique vraiment d'arriver à la fois à faire ouvert et fermé, entre guillemets.
Et oui, Jean-Philippe, on a eu une superbe description avant la pause de Cécile qui nous a plongé un petit peu dans l'aménagement de ce village. Et là, je me tourne peut-être vers Fabien. Les résidents, il y en a 120. Ils sont tous atteints donc d'Alzheimer. C'est un public particulier. Je suis curieux de savoir comment on fait dans ce village-là et comment c'est aménagé pour à la fois permettre de sécuriser l'espace pour les villageois et pour le rendre ouvert au public et au-delà des aidants et des familles. Voilà. Alors,
Au niveau de... je vais me concentrer sur les villageois. Il y a une liberté de mouvement sur les 5 hectares que représente l'établissement qui est... ils ont leur maison, ils ont leur chambre dans la maison. Après, ils sont libres d'aller dans tout le village et vers tous les services qui sont au niveau de la bastide. Au niveau de la sécurité, c'est des palissades en bois qui entourent les 5 hectares. Du coup, c'est une barrière douce, entre guillemets, c'est pas un mur de briques, c'est pas quelque chose de violent, donc on voit les choses à travers, ils savent qu'il y a des choses en dehors, ils savent qu'il y a une limite, pour certains ça peut être compliqué par moment. Après, c'est à nous, au niveau de l'accompagnement, entre les professionnels, les familles, les bénévoles qui sont présents, d'aller vers ces personnes qui peuvent être inquiètes par ce sentiment d'enfermement par moment. Et c'est à nous aussi de proposer des sorties, une ouverture vers l'extérieur, de créer cette ouverture vers l'extérieur pour répondre à ce besoin. Même si le village répond à beaucoup de besoins, à mon sens, il faut qu'on soit dans la proposition, qu'on soit force de proposition pour créer cette ouverture et les rassurer.
Oui, alors puis aussi, tout a été construit pour que il y a une approche de l'aide qui soit le moins médicamenteuse, ça c'est très important. Tout est axé sur, alors je ne sais pas quel terme vous utilisez de manière professionnelle, sur le comportement ou je ne sais pas quoi, vous êtes psychomotricien vous-même. Tout est fait en sorte pour aider les gens sans utiliser des produits, donc tout est les apaiser, les aider, les guider.
Dans la maladie d'Alzheimer, c'est principalement identifié par rapport aux troubles de la mémoire, mais ça concerne pas que la mémoire, ça concerne la communication. Il peut y avoir au fur et à mesure de l'évolution des difficultés motrices qui apparaissent également. Du coup, dans toutes les propositions, quels que soient les professionnels, je parle autant de mes collègues maîtresses de maison au quotidien, maîtres et maîtresses de maison au quotidien sur les maisons, les infirmiers, les animateurs, toutes les personnes qui interviennent au sein du village, on est source de propositions et d'activités qui ont du sens pour les villageois. Et par cette occupation, par ce lien social, par ces activités signifiantes, au final, on est source comme vous dites, de thérapie non médicamenteuse, thérapie dans le sens thérapeutique qui empêche l'apparition d'un trouble du comportement ou qui limite l'intensité d'un trouble du comportement. et non médicamenteuse, parce que voilà, plutôt que
par la présence humaine et par la stimulation au niveau des activités, sans plus que par le traitement médicamenteux.
C'est ça.
D'ailleurs, en termes de traitement médicamenteux, alors quand on parle d'Alzheimer, il n'existe pas de traitement contre Alzheimer, je crois. Qu'est-ce que des médicaments pourraient apporter la partie psychologique avec des produits chimiques qui apaiseraient ce genre de choses, c'est ça?
Il y a les thérapeutiques qui sont mises en place sont des thérapeutiques qui visent à limiter les troubles du comportement qui découlent de la maladie d'Alzheimer. À l'heure actuelle, la maladie d'Alzheimer et les dégénérescences neuronales qu'elle provoque, pour l'instant, la recherche a besoin de continuer à travailler pour avancer là-dedans.
Oui, bien sûr. C'est vrai que quand on quête un peu, on regarde sur les sites internet ou les publications scientifiques, on regarde toujours un petit peu qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a. Je suppose que vous êtes aussi au courant de ce qui se fait. Alors, cet aspect scientifique aussi, il est important dans votre sein. Et ça marche, dans les deux sens. Vous avez besoin des travaux des autres, mais en fait, vous participez aussi à une certaine manière.
C'est ça, oui, je pense que là, il y a une partie recherche qui a été très importante au village, dans le sens où, comme on est un lieu unique et expérimental, on a eu cette approche de la recherche, et au-delà de l'ITSERM de Bordeaux qui a fait la recherche, on a maintenant des chercheurs qui nous sollicitent pour effectuer des travaux de recherche. Alors, pas en mode laboratoire, mais en mode vraiment, qu'est-ce qu'on peut amener. Là, je sais que, par exemple, dans les prochains mois, autour de l'activité physique adaptée, on va avoir une personne qui vient de Paris pour travailler avec les Exergames, donc vraiment de la stimulation motrice via un mur interactif. Donc voilà, on s'ouvre à d'autres pratiques, toujours non médicamenteuses, et si on peut inclure la recherche dans ça, c'est encore mieux. C'est bon pour eux, c'est bon pour nous.
La recherche a toujours fait partie de l'ADN du projet, en fait. Ça, dès le début, Henri Emmanueli souhaitait qu'il y ait de la recherche sur le village et que ça se perpétue.
Oui.
La recherche INSERM, comme disait Fabien, est depuis l'origine du village pour évaluer en fait le dispositif dans son ensemble, aussi bien sur le volet qualité de vie des villageois, des familles, des bénévoles, des professionnels. Il y a aussi une étude médico-économique, notamment sur les coûts évités potentiels. Tout ça qui est mis en place et on est en attente des résultats qui devraient arriver cette année.
Alors, est-ce que vous avez des sollicitations, des communications avec l'extérieur, justement, d'autres villes, d'autres pays, d'autres personnes qui viennent vous voir en disant « Et nous aussi, on aimerait faire ça, ça a l'air bien, qu'est-ce que vous en pensez ?» Est-ce qu'il est dans le monde, ou au moins en Europe, je ne sais pas où, des projets en cours par rapport à ça? Parce que vous avez dû faire des émules, ça me semble presque inévitable.
Alors, on a énormément de demandes de visites. On y répond pour la plupart, dans des délais plus ou moins contraints en fonction des demandes. Et effectivement, aussi bien au niveau national, c'est-à-dire qu'on a pas mal de structures médico-sociales qui viennent voir le village pour s'en inspirer, échanger des bonnes pratiques, parce qu'il n'y a pas que au village qui a des bonnes pratiques.
Retour d'expérience, tout ça.
Donc ça, c'est formateur et riche pour tout le monde. Et à l'international également, actuellement, donc maintenant, il y a une vingtaine de villages qui suivent cet état d'esprit du comme à la maison. D'autres qui s'inspirent de celui de Dax, justement, pour se construire. Je pense notamment à un au Portugal qui est a priori assez avancé. On a la semaine dernière certains professionnels du village qui ont été en Italie, à côté de Milan, à Monza, il y a un village. Donc on essaie justement de mieux collaborer sur les pratiques aussi à l'international pour s'enrichir des plus qu'il y a, avec des contraintes qui sont différentes en fonction des cultures.
Oui, bien sûr.
C'est assez chouette aussi.
Le village italien n'est pas le même que le village landais, j'imagine.
Non, tous les villages sont uniques de certaine façon,
forcément,
avec leurs spécificités. Donc on a aussi un volet recherche, on essaie peut-être de pouvoir évaluer les dispositifs entre eux. Et on a aussi quand même pas mal de potentiels porteurs de projets français qui viennent nous voir dans un objectif de pouvoir en déployer d'autres en France. Parce que comme il est unique, il ne répond pas à toutes les demandes nationales. Donc il y a des attendus de ce côté-là.
Ouais, c'est vrai que tout le travail qui a été fait, on en a parlé au début avec Marc, là, de conception architecturale, la colorimétrie, l'ergonomie, etc. C'est du travail qui a été fait maintenant. Et donc les gens peuvent... ça a déjà été fait. Donc ça veut dire qu'ils peuvent s'inspirer de ça pour recréer ailleurs, sachant qu'ils ont déjà un retour d'expérience sur ce qui a été fait et comment ça fonctionne. Donc j'imagine que c'est une mine d'or, un trésor d'informations pour les gens qui veulent tenter... de reproduire votre schéma. On va faire une deuxième pause. On va écouter Flash Info local cette fois-ci. Et on se retrouve ensuite pour la suite de cette émission. Voilà, de retour avec Cécile et Fabien du village landais d'Alzheimer. Donc on a encore plein de choses à découvrir. Alors notamment, voilà, ça c'est une chose, on en a parlé un peu hors antenne, il y a un contenu aussi, qui était, c'est ça qui est, j'allais dire, qui est presque incroyable, hein, c'est qu'encore une fois, on n'est pas dans le cadre d'un EHPAD ou quelque chose comme ça, il y a vraiment quelque chose de spécifique, c'est qu'il y a il s'y passe des choses, et même on peut se dire, tiens, je vais aller au village Alzheimer, parce que ce soir, il y a un concert d'un musicien que je connais. Et ça, c'est vraiment très unique.
Je vais juste, après je laisserai la parole à Fabien, parce que je pense qu'il est le mieux pour témoigner de ça.
Oui.
Pour revenir, quand vous disiez, il y a énormément de choses qui sont faites aussi dans les EHPAD, hein. C'est-à-dire d'activités, entrées, sorties.
Oui, enfin,
on essaie quand même de ne pas se mettre en opposition, parce
non,
que, enfin, voilà, il y a énormément de vie dans les EHPAD aussi.
C'est par rapport à l'image qu'on a. L'image,
est mauvaise, voilà, mais la réalité, surtout pour ce que je connais dans les EHPAD landais, ne l'est pas du tout. Quoi. Donc c'est sûr qu'ils n'ont pas tous des salles de spectacle comme on a, avec des concerts et une saison culturelle.
Voilà, c'est ça, une saison culturelle, ça c'est vraiment spécifique.
Oui, en termes de spécificité, c'est sûr que c'est un énorme plus pour les villageois qu'on accueille avec cette saison culturelle et du coup cette multitude d'artistes, d'intervenants extérieurs qui viennent, qui proposent à la fois des spectacles pour les personnes de l'extérieur, pour les pays, pour les personnes qui habitent autour de Dax ou enfin qui veulent venir de plus loin.
Voilà, c'est ça.
Et des ateliers qui sont proposés aux villageois. Voilà, je sais qu'il y a des personnes issues du monde du cirque, des magiciens, des musiciens, et à chaque fois il y a ces prestations qui sont proposées aux villageois et qui sont source de lien social, d'ouverture sur la culture, de maintenir quelque chose où les villageois avaient peut-être l'habitude avant d'arriver au village de vivre ça. En dehors de cet aspect culturel, oui, il y a une véritable ouverture vers l'extérieur au travers de marches régulières qu'on organise en équipe ou même de courses, de participation à des événements qu'organise la ville de Dax ou qu'organise des associations auxquelles on participe comme tout à chacun. On vient et on participe. On est acteur principal, enfin voilà, on est des acteurs de la vie. Il n'y a pas que la vie dans le village.
Vous êtes vraiment intégrés.
Sur les parcours du cœur dimanche matin à Dax, à courir et marcher.
Et voilà, oui. Vous êtes vraiment intégré à la région, au coin. Vous êtes vraiment. Oui, Marc.
Et quand on vient de l'extérieur, qu'on ne travaille pas au village Alzheimer, qu'on n'a pas de villageois qu'on connaît dans notre entourage, etc., est-ce qu'on peut venir au village, à la médiathèque par exemple, à l'auditorium ou bientôt à la brasserie? C'est aussi. Il y a une porosité avec l'extérieur aussi pour les personnes qui, a priori, n'ont rien à voir avec le village, non?
En gros, à savoir que si le week-end, vous ne savez pas quoi faire à Dax, n'hésitez pas à aller voir sur notre site la saison culturelle. Parce que je pense que 3 week-ends sur 4, on a des événements qui sont ouverts sur l'extérieur.
Oui, il y a beaucoup de choses. Ouais.
Alors, on a une jauge à 80-90.
Ok.
Les villageois peuvent être présents, ça dépend de leur volonté. En général, ils ont eu un événement pour eux spécifique l'après-midi, donc c'est par rapport à ça. On a aussi la médiathèque, qui est vraiment dans le réseau des médiathèques départementales, qui est actuellement ouverte 3 demi-journées sur l'extérieur. Donc tout le mercredi matin, mercredi après-midi, jeudi après-midi. Le mercredi matin, c'est surtout orienté, on travaille avec des mâmes qui viennent avec des enfants, justement, parce que cette mixité est super chouette pour les villageois. On a un espace culturel pour les enfants au sein de la médiathèque.
Alors, les mâmes
assistante maternelle.
Ouais. Ah oui, okay, donc, merci. On a vraiment des petits bouts de choux de 0, de 0 à 3 ans qui viennent au village. Comme on a un espace jeu pour enfants au sein de la Bastide, donc c'est assez chouette.
Avec une balançoire, et du coup, pour l'intergénérationnel, c'est.
Et il n'y a pas que les enfants qui se balancent sur cette balançoire.
Non, effectivement.
La balançoire est ouverte à tout le monde.
Et
le
dernier lieu qu'on va ouvrir sur l'extérieur, c'est la brasserie. Alors actuellement, énormément de personnes peuvent y manger, hein, donc que ce soit les villageois, les familles. Dès qu'on a des événements, des personnes qui sont invitées, forcément ils peuvent manger à la brasserie. Et courant juin, on va l'ouvrir vraiment sur l'extérieur, uniquement sur les midis, parce que c'est le plus simple pour nous d'un point de vue organisation. Faudra appeler avant 10h le matin pour être sûr qu'il y ait de la place, parce que la brasserie n'est pas très grande, et des fois avec nos événements et juste le nombre de villageois et de familles qui mangent, on se suffit à nous-mêmes, même si la terrasse est belle, donc l'été on aura une jauge un peu plus importante, mais pouvoir permettre à n'importe quel Dacquois du mardi au vendredi de pouvoir venir manger, voir la Bastide vraiment et vivre l'expérience
du journal.
Alors, on ne peut pas acheter le journal.
Ah non, il est mis à disposition des villageois.
Il est mis à disposition des villageois. On ne fait pas d'échanges commerciaux là-dessus. Mais en tout cas, ils pourront payer leur repas. Ça, oui.
Il y a une épicerie aussi. On peut acheter des...
Alors, l'épicerie, ça a plutôt pour objectif. Peut-être que Fabien en parlera un petit peu plus. Il n'y a pas d'échange d'argent. Parce que l'objectif n'est pas d'acheter quelque chose, mais plutôt de permettre de garder une habitude
de vie.
Une autonomie.
Oui, c'est important, les rites.
Exactement. Oui, de maintenir chaque maison le matin est tenue de, avec les villageois qui sont accompagnés par des professionnels ou des bénévoles, de maintenir cette activité-là, cette activité qui existait avant leur arrivée au village et qui, du coup, est importante de maintenir, d'aller chercher ses fruits et légumes, d'aller chercher le pain pour, pour l'ensemble de la maisonnée. Donc, le matin, il y a la valse des chariots qui se rendent, qui se rendent à l'épicerie.
Comme dans les villages.
Exactement.
Comme dans le village,
Exactement. Ouais. Et ces lieux ne pourraient pas ouvrir si on n'avait pas la présence de bénévoles.
Et oui.
Et oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est un peu surprenant quand on étudie votre dossier. On se dit, tiens, mais il y a plein de bénévoles, ça ressemble au fonctionnement d'une assoce, etc. Alors, comment ça s'articule tout ça?
Dans les piliers du projet, le bénévolat est indispensable. Déjà, parce que comme le cœur du projet, c'est le lien social. Le fait d'avoir cette présence humaine supplémentaire permet de maintenir ce lien. La brasserie, en dehors de l'horaire d'ouverture du midi, où c'est les cuisiniers qui s'en chargent, si la brasserie n'est pas ouverte, on n'a pas de bénévoles qui peuvent assurer l'ouverture matin et après-midi. L'épicerie, c'est pareil. Médiathèque, c'est pareil. De plus, les bénévoles peuvent être identifiés pour des accompagnements individuels, pour des villageois, que ce soit juste se balader dans le parc, nous aider dans les activités à l'extérieur, hein, quand on a besoin d'être plus en nombre. Et actuellement, on a une centaine de bénévoles.
Voilà, qui sont formés,
qui
bien entendu.
Investis, on les accompagne, on a un petit parcours d'intégration, formation à l'arrivée, et ensuite, on a un plan de formation pour eux. Et un peu de l'analyse de pratique, comme on fait pour les professionnels, mais à destination des bénévolats, pour des retours d'expérience, d'événements qui auraient pu être plus ou moins difficiles à gérer, pour qu'ils puissent justement se sentir bien aussi à venir faire du bénévolat au sein du village.
D'ailleurs, ce que vous disiez hors antenne, et ça c'est important à faire passer aussi, c'est que ce cadre de vie particulier est vraiment très bénéfique pour le bien-être des villageois, mais aussi des aidants. C'est-à-dire d'aller visiter quelqu'un dans cet endroit-là, c'est aussi, ça devient non plus une corvée ou quelque chose de pénible, de difficile, mais aussi ça va faire partie d'un moment de répit.
Je pense qu'aller voir, un proche qui a une maladie qui évolue, c'est jamais facile, quel que soit le lieu où on le visite.
Tout à fait.
Mais c'est vrai que, avec les services, que l'espace, que même les maisons même avec le petit salon, le salon, enfin, avoir tous ces petits coins où se caler et vivre un bon moment avec son proche, c'est vrai que c'est... Et puis même, au-delà de juste venir voir, voilà, c'est partager des moments, c'est s'inclure sur l'activité champ menée par le bénévole, c'est s'inclure des fois, nous, sur des marches à l'extérieur, c'est, avec ma collègue ergothérapeute, c'est le projet de permettre à des familles de venir avec nous à la piscine, partager des vrais temps de vivre, de continuer à vivre avec son proche pas de subir une visite. Oui, c'est ça nos objectifs.
Aller au-delà de la simple visite, finalement.
Oui, c'est-à-dire,
on y va pour, certes, visiter son proche, mais pour... passer un moment qui va au-delà de la visite qui peut parfois être apparentée à une corvée.
Mais c'est bien aussi, voilà, c'est ça. Et c'est aussi prendre les choses en main, c'est investir aussi dans l'accompagnement de son proche, c'est-à-dire de pas juste dire bonjour, au revoir, ça y est, j'ai fait ma bonne action, je peux repartir regarder ma série télé.
Ça fixe autre chose.
Oui, voilà, du coup, c'est un autre accompagnement, une autre vie, c'est bien
et
ça.
Et
c'est aussi les inclure dans les gros événements, comme je pense au marché de Noël, où il y a énormément de familles qui sont venues, aux fêtes du village là, en septembre, où beaucoup de familles sont venues les années précédentes et vont venir encore cette année. C'est faire vraiment partie intégrante. Enfin, quand on arrive au village, quand on rentre dans le village, on ne sait pas qui on croise. On ne sait pas si on croise un villageois,
on ne sait pas si on croise un
professionnel.
Vous êtes en civil, vous n'êtes pas en blouse, sauf pour des moments médicalisés particuliers, je suppose, mais sinon, ça ne se voit pas.
Exactement. On ne sait pas si c'est bénévole, professionnel, villageois, on est tous pareil.
On a une moyenne d'âge des villageois relativement jeune, 77 ans, la plus jeune ayant 42 ans, la plus âgée 105, ce qui fait qu'en fait cette mixité aussi d'avoir, on ne sait vraiment pas qui est la famille, qui est le villageois, bénévole, qui est le professionnel, donc qui permet justement de rentrer en communication, de maintenir ce lien qui est vraiment le cœur du projet. Très bien. Précision pour les familles, on a aussi la chance d'avoir 9 studios au niveau de la Pastide pour pouvoir accueillir les familles.
Qui viennent de loin.
Notamment parce qu'il y en a qui viennent de loin.
Et oui, forcément.
Et ce qui fait que, par exemple, pendant les vacances scolaires, on est souvent complet, notamment avec des fois les enfants, les petits-enfants qui viennent. Et donc, dans l'expérience ils habitent au final pendant une semaine ou plusieurs jours sur le village à prendre leur petit-déj à la brasserie. Il y a vraiment une vie au sein du village avec leurs proches. Et ils peuvent partir aussi en vacances. On a des villageois qui partent là prochainement, d'ailleurs, 3 semaines en vacances à l'extérieur avec leurs proches. La vie continue, quoi.
Ouais, super. Bon, c'est vraiment chouette. On va faire une dernière pause. On va écouter un petit peu de musique et on retrouve nos invités pour la conclusion de cette émission. Et voilà, nous voilà de retour pour la dernière partie de cette émission. Donc, on va parler un petit peu d'actualité parce qu'en fait, comme c'est un village, il se passe plein de choses, comme dans plein de villages. Il y a des concerts, il y a des choses. Et la brasserie bientôt qui va être accessible depuis l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe un prochain événement au village?
Alors, je n'ai pas la saison culturelle en tête par cœur. Je regarde Fabien qui ne l'a pas non plus. Mince, ouais. Florent n'est pas là. Donc, vraiment dans les actualités, ouais. Oui, la brasserie en juin va ouvrir. Notez bien, on fera la communication nécessaire pour que ça fonctionne sur cette ouverture.
Oui.
N'oubliez pas d'aller voir tous les week-ends ce qu'on propose sur le village. C'est assez divers comme offre culturelle, aussi bien locale.
On retrouve ça sur le site internet qui est bien fourni.
Exactement.
Voilà. Et puis aussi, il y a un passage d'un cap quand même pour vous, sur la sortie de la partie expérimentation. Donc ça, c'est quand même un cap pour le village.
Alors, c'est la sortie du statut expérimental. D'un point de vue expérimentation, je pense que... Enfin, on espère qu'on va continuer sur ce terme-là, mais expérimentation au sens tester des choses nouvelles.
C'est ça, oui.
Effectivement, on est sur un statut expérimental qui se termine à la fin de l'année. C'est pour ça qu'on attend et que commencent à être publiés les résultats de la recherche qui est fait par l'INSERM, comme on a évoqué plus tôt. Résultats qui sont plutôt positifs d'un point de vue qualité de vie des villageois, également des aidants. Il y a aussi tout un volet médico-économique, parce que pour pouvoir mettre en place tout ça, effectivement, si on compare à une structure classique de type EHPAD, on coûte plus cher. Le coût à la place, on a un coût à la place de 80-85 000 euros, là où les EHPAD ont un coût à la place à 55 000 euros. Même si les EHPAD sont structurellement, de nos jours, le financement n'est pas du tout à la hauteur des ambitions et sont en grande difficulté financière, donc la comparaison n'est pas forcément la meilleure. Mais on coûte quand même moins cher que des structures de type handicap. Donc dans l'absolu, on espère qu'avec les coûts évités qui sont démontrés via la recherche, notamment le fait qu'on ait très peu d'hospitalisation par rapport à une structure classique.
Oui, c'est ça, il faut tout calculer.
Tout calculer dans les coûts évités, donc peu d'hospitalisation, des retours d'hospitalisation très précoces de par la présence médicale. Parce qu'on pense qu'on est non médicalisé au sens où on n'est pas comme l'hôpital, mais dans les faits, on a quand même la présence médicale du lundi au vendredi avec des astreintes le week-end, qui nous permet une qualité d'accompagnement comme sur du sanitaire, tout dans un environnement comme à la maison, qui fait que tous ces coûts, on a des coûts évités, peu de transport sanitaire. Donc ça va pouvoir être démontré. Donc peut-être qu'à un instant T, la sortie de l'argent du côté sécu est un peu plus importante, mais au regard de tout le reste, on est assez attaché à cet aspect où on fait de l'accompagnement jusqu'au bout de la vie des villageois. On n'a pas dans l'imaginaire, on peut penser qu'à partir du moment où ils sont trop avancés dans la maladie, ils ne restent plus. C'est vraiment leur dernière demeure au village. L'année dernière, pour vous ayez un ordre de grandeur quand même, même si ce n'est pas les choses les plus gaies, on a eu une trentaine de décès sur le village, donc une trentaine d'admissions. Avoir ça aussi en tête de l'autre côté. Et la plupart de tous les accompagnements fin de vie se font au village. Donc là aussi, au niveau des coûts, éviter indépendamment de la qualité, parce que les familles sont ultra satisfaites de ça.
Non, mais c'est bien de parler de ça, et puis voilà, d'expliquer qu'effectivement, il faut tout calculer. Parce que je fais souvent un parallèle avec les cures, parce qu'ici, c'est quand même un sujet sensible. Les cures, ça sert un investissement de maintenant, c'est pour plus tard.
C'est une économie pour le futur, bien sûr.
C'est toujours la difficulté en France sur l'investissement dans de la prévention. Parce que le village, c'est un peu ça, tout le projet autour de la prévention des troubles, prévention, enfin mieux vivre avec sa maladie. C'est vraiment pas là où actuellement en France, il faut des plans, enfin c'est sur du pluriannuel. Et on n'a pas trop une vision des financements publics, malheureusement, pluriannuels de nos jours.
Oui, c'est ça, voilà.
Mais on est assez optimiste sur le fait de maintenir un statut expérimental et d'avoir les financements à la hauteur, voire même d'avoir plus de villages en France.
Parce qu'on
a des porteurs, notamment en Bretagne, Ifignac, ou à Champagne.
Chez Bernard Hinault, disons. Ifignac.
Ah oui. C'est sûr que là, puisqu'on en sait de ce village, on a envie de se dire waouh, il faudrait qu'il y en ait plus.
Partout.
Partout, il faudrait qu'il y en ait plein, parce que ça touche à peu près 1 million de personnes par an, je crois, maladie d'Alzheimer, je crois que c'est un peu.
Oui, c'est ça, 800 000 à 1 million.
Et oui, voilà, donc du coup, il va falloir que les autorités se bougent et les gens pour essayer d'étendre votre dispositif à un territoire plus grand, puisque le bilan est positif, même s'il y a probablement des axes d'amélioration, certaines choses, parce que quand on fait une expérience, c'est normal.
Et on cherche toujours à s'améliorer, bien sûr, à s'inspirer des bonnes pratiques.
Heureusement, sinon on s'ennuierait.
Voilà. On a de la chance de vous avoir, quand même, parce que il y a des gens qui, grâce à vous, ont une fin de vie qui est d'une qualité qui était inespérée quand même il y a longtemps. Franchement, c'est et les aidants aussi ont de la chance, de pouvoir accompagner leurs proches dans ce cadre-là. C'est quand même super. Merci pour ce que vous faites au quotidien, ça a du sens et c'est important. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce village landais d'Alzheimer. Et merci Henri Emmanueli, s'il nous entend, s'il capte la FM là où il est.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci, au revoir. Bon week-end.